Un micro dans la ville sur Marmite FM 88.4. Nouradine Agne.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est-à-dire l'exposition permanente du musée de la ville qui s'intitule « Il était une fois Saint-Quentin ». Nous allons donc suivre Caroline Weber, qui est guide conférencière et qui nous raconte l'histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Du coup, on est accueilli directement par une carte qui montre à la fois les 12 villes et qui explique un peu déjà le nom de Saint-Quentin-en-Yvelines, parce qu'il y a aussi une grande confusion ici, dans le sens où Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le nom des 12 villes de l'agglomération et du quartier central de Montigny. Et il y a un petit film de rappel, notamment pour les individuels, qui est assez ambitieux parce qu'en fait, il fait préhistoire jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire dire, c'est pas parce qu'on est une ville nouvelle qu'il n'y a pas de choses plus anciennes. Et finalement, en fait, l'histoire de la ville nouvelle, elle s'explique aussi par des choses beaucoup plus anciennes du territoire. Alors, ici, du coup, c'est pour ça que c'est un peu rapide, on va dire, parce que c'est préhistoire 17e siècle. Donc la première partie, elle brasse un petit peu des choses diverses. C'est-à-dire, voilà, on a un héritage, par exemple, très ancien, la forêt d'Yvelines, qui explique le nom du département. On a les tracés romains, qui sont encore aujourd'hui nos routes nationales. Et il y a toutes les petites choses qu'on retrouve au fur et à mesure qu'on fait des fouilles, parce que à chaque fois qu'on construit ou qu'on rénove un bâtiment, il y a des fouilles préventives. Et du coup, ça nous permet de découvrir plein de choses. La dernière partie, on va dire, 17e siècle, c'est de dire qu'est-ce qui a permis de mettre en place un peu déjà les communes et d'apporter des choses qui ont compté dans la ville nouvelle. Donc, la grande partie qui compte, c'est Versailles. Il y a eu une très grosse influence, et notamment pour apporter de l'eau jusqu'au jardin du roi, qui voulait énormément de fontaines. Donc voilà, ça fait partie un peu des choses. Il y a toujours pareil, une partie ludique.
Donc cette fois, c'est un vrai ou faux.
Voilà, c'est le vrai ou faux, c'est le jeu traditionnel. Hein. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Donc là, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une division par commune, puisque la Révolution a aussi apporté ça, il y a eu une vraie division. Et par commune, en fait, c'est comme une machine à remonter le temps. On voit le nombre d'habitants par ville et l'évolution. Donc voilà, la carte telle que c'était, on va dire le peuplement, en 1851, puis en 1874 ou des choses comme ça. Et on voit un peu quand même qu'il y a, c'est toujours des villages quand même, hein. Mais il y a deux villes qui sont un peu plus importantes, qui sont Plaisir et Trappes, exactement.
Plaisir, 1095 habitants.
Voilà, 1095 habitants par rapport, par exemple, à, La Verrières, 85 habitants, ou Élancourt, 336. Donc 1095, c'était vraiment la grosse ville, on va dire, du coin. Et Trappes, ça va venir un petit peu plus important encore, avec, évidemment, la voie ferrée qui arrive. Donc il y a un peu tout ce réseau de transport qui se met doucement en place, et qui fait que dans les grosses villes, comme Plaisir ou Trappes, on passe par exemple à 2600 habitants, 4800 habitants. Donc on a un peu là les premiers exemples en fait d'ensemble urbain, parce que le musée de la ville, comme son nom l'indique, travaille aussi sur l'urbanisme, l'architecture, tout ça. Donc on voit un petit peu les premières choses intéressantes qui ont été faites. Et aussi on entre quand même dans la période doucement où nous on a des collections de musées. Parce qu'en fait la collection du musée de la ville, elle accompagne le développement de la ville nouvelle. Dès le début on s'est dit en fait qu'il fallait collecter cette mémoire puisqu'on transformait entièrement la ville. Et forcément la première chose qui s'est dégagée après la Seconde Guerre mondiale en fait, ça a été les grands ensembles. De dire en fait le plus urgent c'est de ne pas laisser les gens dans des bidonvilles sans aucun confort, dans des endroits complètement insalubres. Donc en fait on a construit pour accueillir le plus de gens possible. Sauf que les grands ensembles, ils ont aussi été beaucoup critiqués. Et le but des villes nouvelles, en fait, c'était de faire un peu l'anti-grands ensembles. C'est-à-dire, on va loger beaucoup de gens, mais on construit d'un seul coup une ville qui est équilibrée. 65-72, vraiment, la naissance commence à mettre un peu de temps à se mettre en place. 73-83, comment on a vraiment construit la ville nouvelle. Et à partir des années 80, comment on l'a fini et comment on change la promotion aussi. Parce que finalement, le côté ville à la campagne, c'est un peu le cas de toute la banlieue parisienne. Donc, il faut mettre en avant d'autres choses à Saint-Quentin. On veut éviter de recréer les erreurs d'après-guerre. Et du coup, on fait vraiment ces schémas directeurs. Donc, on prévoit les villes nouvelles, sachant qu'il y en a qui prennent un peu d'avance. Alors ça, c'est une petite partie intéressante parce que la plupart des maires, en fait, sur cette période 65-72, ils étaient très réfractaires à l'idée de dire on va transformer des villages en villes. Il y a quand même pas mal d'endroits où on est passé de 3 000 habitants finalement à 30 000 en deux décennies. Donc c'est un petit choc. C'est vrai que quand on est maire de village, on n'a pas forcément envie que ça se construise partout. Et puis en plus, l'exemple qu'on avait en tête, c'était quand même les grands ensembles. On disait, moi, je veux pas ça. Il y a des maires qui, au contraire, ont été proactifs.
Qui ont misé là-dessus.
Voilà, comme le maire de Maurepas qui a dit, ben, moi, je veux pas ça, donc je vais appeler quelqu'un qui a écrit un livre, Jacques Ribou, qui est vraiment un businessman, en fait, mais il a fait pas mal de choses différentes. Et notamment, il a écrit un livre sur la ville heureuse. En disant une ville heureuse, il faut qu'il n'y ait pas trop d'habitants, que ce soit bien réparti entre les équipements, tout ça. Et surtout, là, on arrive sur la période 73-83, où ils ont dit la ville nouvelle se lève à l'ouest. C'est assez vrai, puisqu'en fait, on avait déjà un petit peu Maurepas la Verrière avec Ribou, mais ça va être beaucoup, vraiment, de la Verrière à Trappes que ça va s'urbaniser. Et en fait, dans un second temps, à la suite des années 80, donc à partir de 1983, on va plutôt urbaniser ce qu'on appelle les trois villages. Montigny, Voisin, Guyancourt, sachant que Magny-les-Hameaux, ils voulaient garder une ville au moins à vocation agricole. Mm-hmm. Donc c'est vrai que Magny-les-Hameaux, voilà, il y a encore beaucoup de champs. Et c'est voulu, c'est préservé du coup. Donc c'était avoir un peu des projets différents dans cette ville nouvelle. C'est vrai que voilà, il y a plein d'expérimentations un peu comme ça à ce moment-là, et ça devient un laboratoire d'architecture en fait, les villes nouvelles. Donc pas que Saint-Quentin-en-Yvelines, mais les autres aussi. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes architectes ou artistes qui vont faire les cinq. Voilà. Donc c'est assez drôle, comme parfois on retrouve exactement le même quartier. Mais c'est vrai que du coup, on arrive sur l'urbanisation de l'Est, pardon. Donc avec notamment les grands projets qui étaient prévus pour Montigny, parce que Montigny, on voulait que ce soit du coup le futur quartier Saint-Quentin. Et avec des nouveaux équipements plus culturels cette fois, parce qu'on avait déjà assuré la santé, l'emploi, tout ça. Et là, on va commencer à prendre des architectes, en fait, qui sont connus dans leur pays, mais qu'on a du mal parfois à accueillir en France. Ça va être le cas de Ricardo Bofill, qui a fait plusieurs projets en Espagne, mais qui était très novateur. Et en fait, tous les projets qu'il faisait en France échouaient. Finalement, il y avait un projet pour les Halles à Paris, ça n'a pas marché. Il y avait un projet à Cergy-Pontoise, il va échouer aussi. Et du coup, sa première construction à Saint-Quentin, ça va être le quartier de la Sourderie, avec les arcades, le viaduc qui est directement sur l'eau, et de l'autre côté, côté du coup, voisin le Bretonneux, le temple et les templettes. Donc ça, c'est vraiment un quartier emblématique qui a été construit en plus de cette manière, dans le sens où il savait que Ricardo Bofill, il faisait des choses très ambitieuses, et du coup, c'était ce quartier-là qu'il voulait sur les plaquettes de Saint-Quentin. Donc voilà, c'est de là que les feux de Saint-Quentin sont tirés pour le 14 juillet. Il voulait impressionner les gens. Et il y en a, au contraire, qui ont été très effrayés par ce côté béton, bâtiment gigantesque, mais qui, en voyant le lac, ont dit « Ah, quand même, si, il y a un cadre de vie. » Ouais. Et inversement, il y avait des petits Parisiens aussi qui arrivaient, qui disaient « Ah, bah, pour nous, c'est moins grand, déjà. » Et en plus, là, on va habiter dans du beau fil, mm-hmm. pas juste dans de l'haussmannien ou autre chose. Donc, ils avaient l'impression de participer, en fait, à une aventure. Et ça va être assez intéressant parce que y a plein d'architectes par la suite qui étaient connus, qui ont fait des choses assez originales à Saint-Quentin. Voilà, on a des Vénus de Milo quand même qui portent des bâtiments, c'est pas partout comme ça. Le quartier qu'on a notamment des arcades, il y a pratiquement même à Noisy. Alors je crois que c'est Noisy-le-Sec, il a servi de décor pour Hunger Games, pour la partie du Capitole. Donc c'est vrai que ça fait très futuriste en fait, ces quartiers-là. Et après il y a des bâtiments qui surprennent un peu plus les gens, mais qui sont des bons équipements publics, comme le théâtre, médiathèque et musée, voilà, de Stanislas Fischer. Et alors là, du coup, c'est un peu thématique la fin, parce que l'architecture d'un côté et les œuvres d'art de l'autre. Donc l'art public, c'est un énorme volet des villes nouvelles, qui est complètement à part, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu de l'art dans les villes, mais ça suit généralement l'histoire des villes. Voilà, à Paris, c'était les statues de rois à cheval, etc., qu'on a fini par faire fondre à la Révolution. Ici, dès le début, on s'est dit qu'on voulait des choses pour animer une ville qui était justement nouvelle et donc sans histoire.
On a fait venir des artistes.
Alors voilà, on a fait venir des artistes, ça a permis de donner des repères. Alors il y en a en plus, c'était presque des jeux au départ, parce qu'aujourd'hui, bon, il faut les rénover, les restaurer tout le temps, donc on a beaucoup moins envie que les gens les escaladent. Mais les spaghettis d'Héliencourt, moi j'ai grimpé dessus petite, il y en a plein aussi qui l'ont fait, donc il y avait un peu ce côté justement, c'est à la fois des œuvres d'art et des jeux pour enfants. C'était le moment aussi, on voulait sortir les œuvres d'art des musées poussiéreux pour les amener dans la ville, directement au contact des gens, de dire, bah, en fait, l'art est pour tous, c'est vraiment la grande idée de la démocratisation qui commence aussi dans les années 70 et qui se poursuit dans les années 80. Et alors là, on va inviter des artistes pareils d'un peu partout, en Europe surtout. Et de la même manière, il y en a un certain nombre qui sont devenus célèbres par la suite, qui se sont lancés, on va dire, de façon tremplin à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, ils ont pu faire leurs œuvres soit de façon complètement indépendante, on leur a dit que ce serait dans un jardin, soit ils ont vraiment collaboré dès le début avec les autres, avec les architectes, les urbanistes, les paysagistes, en disant, bah, moi, mon œuvre d'art, c'est une partie du jardin, par exemple. Donc l'artiste qui a fait ça, Danny Caravan, il a aussi fait l'axe majeur à Cergy Pontoise, et en fait il a fait vraiment toute la première partie du parc des sources de la Bièvre en imaginant un endroit où il y aurait un labyrinthe, un endroit où il y aurait un encastrement, on va dire, un peu de carré, une diagonale. Alors le tout prévu avec beaucoup d'eau au départ parce qu'il y avait une référence à Versailles. Et finalement aujourd'hui, ben, on ne va pas revenir dessus, mais le canal n'est pas en eau, donc il n'y a plus d'eau absolument partout. Et c'est vrai que c'était beaucoup des matériaux très différents. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des gens qui travaillaient avec des choses traditionnelles comme la brique ou du bois. Et il y en a beaucoup qui travaillaient avec des matériaux tout à fait novateurs et assumés, même revendiqués. Voilà, un petit peu de la mousse de carbone, du plastique ou des choses comme ça. Donc on a vraiment... Un exemple en fait des villes nouvelles et des quartiers construits à cette époque, parce que la Défense, c'est un peu la même chose, c'est l'urbanisme sur dalle, mais on a invité beaucoup d'artistes finalement à animer un endroit tout nouveau, et ce qui permet aussi de donner des repères. Donc même si on n'aime pas vraiment l'art, ce qui arrive pour certains, ça permet aussi d'avoir des endroits où on peut donner un peu des indices. On dit on arrive à un rond-point, on voit une grande arche bleue, bah là tu peux prendre la deuxième à droite, et voilà, donc
des points de repère
exactement en ville. Et ça, c'est vrai que c'était très expérimental aussi. Et alors, la dernière partie, qui n'est pas vraiment une partie, mais un panneau, qui dit bah, maintenant, ça va être quoi, en fait ? On a perdu le statut de ville nouvelle dans le sens où aujourd'hui, on est une intercommunalité comme une autre. On n'est plus vraiment une ville nouvelle, même si on continue de s'étendre. En tout cas, on n'a plus ce projet de départ de dire bah, on construit, on finit dans les années 90 par l'est de la ville nouvelle, en rajoutant ça et ça, ce qui était prévu au départ, parce que les projets ont quand même été étalés sur 30 ans. Et en fait, aujourd'hui, on va même être amené, pas tout à fait à fusionner, mais quand même à rassembler les projets avec la zone de Saclay. Donc voilà, on continue d'être un territoire amené à mûrir dans d'autres projets nationaux. Donc voilà, c'est vraiment ça l'histoire du SIAP. C'est cette tranche, en fait, de l'histoire française qui montre quelque chose un petit peu insolite.
L'exposition attire d'ailleurs de nombreux curieux, dont certains visiteurs étrangers qui viennent piocher un peu des idées pour, pourquoi pas, des villes du futur ou pour comparer à leurs expériences de villes nouvelles à eux. Et le SIAP continue d'enrichir sa collection pour continuer à être un témoin de l'histoire de la ville et évoluer avec celle-ci.
C'était Un micro dans la ville, présenté par Nouradine Agne.